Merci Stéphane, c'est merveilleux de quand un cœur est disponible, disposé à servir, sans restriction, sans dire oui je veux bien, mais à mes conditions. Et la condition pour que le Seigneur bénisse, c'est qu'effectivement on ne mette pas de barrière aux choses, qu'on ne parte pas d'emblée avec un blocage en disant je veux bien, ouais, mais c'est comme moi je veux. Et si on est comme ça, ben, le Seigneur va prendre son temps pour nous convaincre qu'il faut que les barrières tombent, que les blocages tombent, et que l'acceptation soit totale, entière et parfaite. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. C'est une parole qui est tirée de Daniel. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Je vais lire un autre verset, vous pouvez lire dans Actes. Le tout début des Actes, chapitre 1. Au verset 9, donc c'est Jésus qui parle avant d'être élevé vers le ciel. Après avoir dit cela, il fut élevé. Pendant qu'il le regardait, et qu'une nuée le déroba à leurs yeux. C'est les disciples qui regardaient. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Lorsque j'étais jeune homme, j'avais un ami très proche, avec qui j'ai toujours un peu de contact, mais à l'époque nous étions très proches, et on passait beaucoup de temps en été, surtout en fin de journée, lorsque les soirées alsaciennes commençaient à être moins chaudes. On était dans son quartier là-bas, ou chez moi dans le quartier, et on regardait au ciel, on regardait les nuages, ou on regardait les étoiles qui commençaient à scintiller, et on imaginait un Dieu, quelqu'un qui nous regardait, quelqu'un qui nous observait, quelqu'un qui nous voyait, là, assis sur le banc. On regardait, on scrutait le ciel. Et j'aimais beaucoup, et encore aujourd'hui, j'aime beaucoup voir les nuages, les voir défiler dans le ciel. J'ai de la famille des paysans dans la famille du côté de ma mère, des agriculteurs, qui souvent aussi regardent le ciel, parce que, outre la météo qu'on peut écouter à la radio, il y a une sorte d'expérience, n'est-ce pas, de ce qui va se passer en regardant les nuages, en regardant la couleur du soleil le soir. On peut deviner un peu ce qui va se passer dans le jour qui vient ou le jour d'après. Et ça détermine beaucoup des actions et des préparations du paysan le soir avant qu'il aille se coucher. Donc avec le regard, on arrive à connaître beaucoup de choses. Si l'on veut connaître, il faut regarder. On ne peut pas s'en passer. C'est indispensable. Regarder induit soit l'action, soit l'attente. Je vois que le ciel est clair, je sais que demain je peux faire la moisson. Je vois que le ciel est gris, que le tonnerre gronde, je vais laisser mon tracteur et je vais m'occuper de choses à l'intérieur. Je vais attendre. Il neige dehors, je vais faire du petit bois. Toutes ces choses-là, nous les faisons parce que nous avons observé, nous avons scruté et nous avons compris qu'il faut attendre ou qu'il faut agir. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la connaissance. C'est un vaste sujet. Si on voulait le traiter complètement, ça prendrait des heures et des jours peut-être. Mais j'aimerais, en réduisant au maximum, donner quelques éléments de ce qu'est la connaissance spirituelle, notamment, évidemment. Et pour cela, on va commencer par faire une sorte de parallèle entre ce que la Bible, ou ce que moi j'ai nommé la connaissance mondaine et la connaissance spirituelle. Et on a deux modèles de cela dans la parole. Le premier se trouve dans Genèse 11. Alors qu'est-ce qu'il y a dans Genèse 11 ? C'est une histoire qu'on entend souvent à l'école du dimanche. Et malheureusement, une fois qu'on a entendu les choses à l'école du dimanche pendant longtemps, on se dit « Ah, c'est pour les enfants, c'est plus pour les grands. » Mais la tour de Babel concerne beaucoup les grands et beaucoup plus les grands que les enfants. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes, et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple, et ont une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Je vais m'arrêter là. Je vais lire un autre modèle qui est dans Actes à nouveau. Vous retournez là où vous étiez avant, au même endroit. Acte 1, au verset 4. Donc Jésus est avec les disciples. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Et si vous allez un peu plus loin, chapitre 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent séparément les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle, Parthe, Mède, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ?» Avec la tour de Babel, nous avons une volonté humaine qui est de bâtir. Bâtissons. Faisons quelque chose. Élevons-nous. Quand on fait une ville grande et forte et une tour haute jusqu'au ciel, c'est manifestement, dans un premier temps, pour être vu, n'est-ce pas, de loin. Et lorsqu'on monte jusqu'au ciel, c'est peut-être que quelque part on veut atteindre Dieu ou ce statut de Dieu. Faisons-nous un nom, ils ont dit. Non seulement ça, mais ils avaient une langue qui était mondiale. Faisons-nous un nom. Nous avons tous les éléments qu'il faut pour cela. Une même langue, une vitalité, une force, une unité. Faisons-nous un nom. Est-ce que ça ne vous donne pas l'impression de quelque chose de connu ? Une langue mondiale, une compréhension mondiale des choses. Faisons-nous un nom. Et bien évidemment, dans cette histoire, Dieu n'est pas dans le plan. Dieu n'est pas prévu. On voit que Dieu intervient après. Il décide de disperser ce peuple. Et il décide de jeter l'incompréhension, afin que ce qui est entrepris ne puisse pas se faire. Dans Actes, une grande différence fondamentale dès le départ. Dieu est dans le plan. Il est même à l'origine du plan. Il est celui qui soutient les événements. Une seule parole, mais pas une parole mondiale. Une parole que chacun perçoit comme étant dans sa propre langue. Une parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est le français qui comprend. Et c'est le belge qui comprend. Et c'est le suisse qui comprend. Et c'est le juif qui comprend. Et c'est l'arabe qui comprend. Une parole. Et tout le monde comprend. Et là où l'homme agissait par force et par puissance pour bâtir sa tour, eh bien, je l'ai lu en premier, ils attendaient. non pas dans la force et dans la puissance, mais dans la discrétion et la soumission à l'Esprit de Dieu qui allait venir, dans la dépendance à l'Esprit. Et eux aussi ont été dispersés ensuite, mais dispersés par le Saint-Esprit. Vous voyez, les deux modèles sont présents. Vous avez le modèle de la connaissance des choses selon l'homme. Dieu n'est pas dans le plan. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais lorsque la crise a débuté aux États-Unis, et lorsqu'il fallait voter au Congrès ces 700 milliards pour aider à faire passer les choses, une première fois ça a été refusé. Et un homme s'est levé après en disant, alors qu'ils allaient revoter, il a dit, si cette fois-ci ça ne passe pas, alors il faudra prier Dieu. Rendez-vous compte. Il a dit ça et c'est passé. Dieu n'est pas dans le plan. Alors, comment pouvons-nous connaître spirituellement ? Connaître, je l'ai dit avant, ça induit le regard. Il faut voir. Ça induit aussi l'effort. Et ça induit le mouvement. On ne connaît pas grand-chose lorsqu'on est assis sur sa chaise et qu'on ne tourne pas ses regards d'un côté ou de l'autre. Oh, merci. Vous avez remarqué que Philippe de Courroux buvait beaucoup d'eau hier soir. Alors, je ne chante pas bien comme lui, mais je bois quand même. Mais qu'est-ce que nous regardons ? Qu'est-ce que nous regardons ? Connaître spirituellement, est-ce que je peux connaître spirituellement en regardant dans le naturel ? C'était bien là une des questions qui a été posée dans Actes, toujours, au verset 10. Ils avaient les regards fixés vers le ciel. Pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ?» Ils étaient en train de regarder Jésus-Christ qui montait. Ils étaient en train de se dire, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Il part. Il s'en va. Ils regardaient l'image de Dieu partir. Et immédiatement, il leur a été rappelé que ce n'était pas l'image de Dieu qu'il fallait regarder, mais l'essence de Dieu. Que l'image allait partir, mais que le Saint-Esprit allait venir. Pourquoi regardez-vous cette image qui part ? Notez bien la question. Pourquoi vous arrêtez-vous ? N'est-ce pas, lorsqu'on regarde Jésus-Christ comme celui qui est l'image, comme celui qui est le Jésus-Christ un peu, celui qu'on peut imaginer lorsqu'on est un peu superstitieux, celui qui est proche et qu'on peut presque voir. Et on se dit que si on le voyait, ça irait mieux. Il nous est dit là, c'est fini. Jésus-Christ est parti. Ne vous arrêtez pas. Et quelle a été leur action immédiatement? Verset 12. Alors, ils retournèrent à Jérusalem. Et c'est là qu'ils devaient attendre le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Nous n'avons pas, pour connaître spirituellement, à regarder Jésus qui monte, mais le Saint-Esprit qui descend. Si nous allons dans Luc, au chapitre 24, nous retrouvons un peu la même idée. Jésus était ressuscité, avait un nouveau corps, et au verset 21. Donc il marche et il est rencontré par quelques-uns et ils se parlent, ils ne le reconnaissent pas. Et au verset 21, ils lui disent à lui, à Jésus, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Et avant ça, nous avons des femmes qui sont allées au tombeau, qui ont vu que le tombeau était vide. Et là, deux hommes leur parlent. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Jésus est vivant. Vous me direz, mais Daniel, tu parles à des gens qui connaissent le Seigneur. Qu'est-ce que tu nous apprends là? Frères et sœurs, je le répète, Jésus est vivant. Est-ce que nous le savons? Autre part que là-haut. Jésus est vivant. Il est un esprit vivifiant. Ce n'est pas le Jésus qui est monté. C'est celui qui est descendu. Vous comprenez? Celui qui est descendu est un esprit vivifiant. Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Quelle est notre représentation du Fils de Dieu aujourd'hui? Lorsque nous le voyons, lorsque nous pensons à lui. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur et il est vivant. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Je sais que Jésus-Christ peut nous guérir de nos maladies. Je sais qu'il peut libérer notre corps de nos maladies. Mais avant tout, l'Esprit de Dieu est un esprit vivifiant qui vous donne la vraie vie, celle qui est à l'intérieur. L'enveloppe charnelle est destinée à mourir. Elle est destinée à partir. Et si nous, nous nous concentrons sur ce qui est charnel et sur notre enveloppe, plutôt et avant que ce qu'il y a à l'intérieur, alors nous sommes en train de rater la bénédiction de Dieu. Ne me comprenez pas mal, je ne dis pas que Jésus-Christ ne guérit pas. Je dis qu'avant tout, ce n'est pas celui qui aurait délivré Israël, celui dont on s'imaginait qu'il allait faire du bien au peuple, qui est là aujourd'hui. C'est celui qui veut faire du bien à l'âme, qui veut vous amener avec lui dans son ciel. Celui qui veut vous faire entrer dans la relation avec Dieu. Christ en vous. C'est un esprit vivifiant. Et c'est ce qu'ils disent à Jésus sur le chemin. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Ils n'avaient pas compris que c'était exactement ce qui allait se passer. Mais ça ne se passerait pas comme lui, comme eux l'avaient compris, mais comme lui l'avait décidé. Notre problème, je crois que c'est que nous sommes focalisés sur notre présent, sur notre condition. Et quand nous y pensons, nous souvent nous y pensons par rapport au passé. Mais oui, mais j'ai vécu tellement de choses difficiles. Il m'est arrivé tant de choses difficiles. Si vous vous pensez comme ça, laissez-moi vous dire une chose. La personne qui est à côté de vous a une vie plus difficile que la vôtre. Ah non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Parce que chacun voit sa vie exactement comme il a envie de la voir. Eh bien, moi, je vous le dis, ma vie a été plus difficile que la vôtre. Vous ne me croyez pas? On a chacun sa propre perception de ce qu'a été sa vie. Et c'est bien pour ça que ce n'est pas sur cette base-là que Dieu veut nous guérir et nous délivrer. Ce n'est pas en faisant un retour sur le passé qu'il va pouvoir trafiquer dans nos esprits et dire voilà, on va arranger ça, ça, et hop, ça va. C'est pas ça. Lorsque Lot et sa femme sont partis de là où ils habitaient, de la cité qui allait être détruite, qu'est-ce qui a été demandé à cette femme et à cet homme? Lorsque tu pars, hein, surtout tu regardes bien comment c'était avant pour qu'on puisse voir ce qu'on peut faire pour toi après. Hein, c'était terrible la vie, n'est-ce pas, là-bas? Ne te retourne pas. Parce que si tu te retournes, tu vas être figé. Figé sur ton passé. Tu vas être bloqué. Tu voulais te débloquer. Eh bien non, en te retournant, c'est l'inverse que tu fais. Tu t'installes dans ton problème. Tu t'installes dans tes difficultés comme cela. Je te le dis, ne te retourne pas. Fuis, pars. Là-bas, c'est moi qui t'attends. Et évidemment, ce qu'elle ne devait pas faire, elle l'a fait. Ce n'est pas parce que c'était une femme. Les hommes le font aussi. Elle s'est retournée. Et elle a vu son passé. Elle a vu ce qu'il y avait derrière elle. et elle est restée figée. Et lorsque ces deux hommes ont dit aux disciples, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder? Il était en train de leur dire, ne restez pas figés sur ce qui est passé. Jésus-Christ est monté, le Saint-Esprit descend. Vous voulez la guérison? C'est par là-bas. C'est par là-bas, pas par derrière. Le Saint-Esprit est descendu. N'est-ce pas? Il y a une différence entre s'arrêter et attendre. Il leur a dit, ne vous arrêtez pas, regardez. Mais auparavant, il leur avait dit exactement... Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. S'arrêter, c'est bloquer. Attendre, ça induit quoi? Du temps? Un espace-temps? Un écart de temps? Et quelqu'un. On attend quelqu'un. N'est-ce pas? Lorsque vous invitez quelqu'un à la maison, et que vous avez dit 6 heures, et qu'il est 6h03, voilà. C'est déjà 3 minutes de retard. Lorsque vous invitez les gens le dimanche matin à 10 heures, qui est 10h15, il dit, voilà, ils sont en retard ce matin. C'est ça l'attente. On sait qu'ils vont venir. On sait que les chaises vont se remplir. Alors, on attend. Heureusement qu'on ne s'arrête pas, n'est-ce pas? Parce que si on s'arrêtait, ça voudrait dire quoi? Qu'on n'attend plus. Ça veut dire qu'on est parti. On est parti, on a pris la voiture. Débrouillez-vous. Ne vous arrêtez pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas attendre. Alors, voir Jésus, il y a beaucoup de monde qui voulait voir Jésus, pour plein de raisons. Avant sa naissance, au moment de sa naissance, il y avait une personne qui souhaitait voir Jésus, Siméon. On ne dit pas grand-chose de Siméon, mais vraisemblablement que Siméon avait une relation avec Dieu, comme peu d'entre nous la connaissent aujourd'hui, parce que Dieu lui avait dit, eh bien, tu verras le Messie. Je te promets, tu verras le Messie et après tu pourras mourir. Rendez-vous compte la joie de cet homme. Lorsqu'il a pris Jésus dans ses bras, heureusement qu'il n'a pas levé les bras au ciel à ce moment-là, parce que, mais sans doute qu'il avait ça dans son cœur. Le Messie est arrivé. Je l'ai vu. Je l'ai vu de mes yeux. Maintenant, oh mon Dieu, tu peux me prendre. Hérode a voulu voir Jésus. Pas pour les mêmes raisons, n'est-ce pas? Et sans doute pas parce qu'il avait une bonne relation avec Dieu. Zachée. Zachée a voulu voir Jésus. Zachée a fait un gros travail pour voir Jésus. Il était petit. Il est monté sur cet arbre parce qu'il voulait le voir. Dans Jean 1, nous avons d'autres gens qui voulaient voir Jésus. Les disciples donc étaient avec Jean, verset 35, et Jean leur dit, voilà, C'est lui. Et les deux disciples entendirent prononcer ces paroles, verset 37, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous ? Que cherchez-vous ? » Moi, j'ai besoin de voir les choses. Hein. Je ne sais pas comment vous êtes. Vous, il y a des gens, ils ont tout dans la tête. Ils arrivent à faire des constructions intellectuelles absolument fantastiques. Moi, j'ai besoin de voir. Et la parole de Dieu pour ça est formidable parce que ça donne beaucoup d'images, n'est-ce pas ? Que cherchez-vous ? Alors, je me retourne. Vous ne faites pas ça ? Non. Maître, où demeures-tu ? On veut savoir où tu habites. Et là, c'est fantastique. Écoutez, j'ai pas le temps, je suis fatigué. J'ai parlé toute la journée à une foule. C'est pas ça. Il leur dit, venez. Et voyez. Et ils allaient. Et ils virent. Et ils restèrent. Et plus haut, verset 41. Ils trouvèrent. Nous avons trouvé le Messie. Quel enchaînement. Venez, voyez. Ils allèrent, ils virent, ils restèrent et ils trouvèrent. Si ça avait été différent, il aurait manqué quelque chose dans la parole de Dieu. Ils ont trouvé. Nous avons trouvé le Messie. Dans Luc, toujours. On va dans Luc, par contre. Luc 24, juste un peu avant. Verset 28. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Donc, un homme qu'ils n'avaient pas reconnu. Cet homme, c'était Jésus. Ils ont parlé avec lui sur le chemin. Et lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous !» Car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Imaginez un instant qu'après la bonne discussion qu'ils avaient ensemble, voyant que l'homme souhaitait partir, ils se sont dit, bon, on va le laisser aller quand même parce qu'on n'a pas grand-chose à manger et puis je suis fatigué aussi. Vous voyez, d'un côté, on veut voir Jésus, mais Jésus veut nous voir aussi. Et on peut le rater. On peut le rater lorsque quelqu'un vient vous voir et qu'il vous dit... Vous parlez avec à la maison et à l'heure du repas. Peut-être qu'il y a une petite incertitude. Qu'est-ce qu'on fait ? On le garde avec nous ou on le renvoie ? Qu'est-ce qu'on prend comme décision ? S'il ne l'avait pas gardé, est-ce que leurs yeux se seraient ouverts ? C'est parce qu'ils l'ont retenu. C'est parce qu'ils lui ont dit, non, viens, reste. Dehors, il ne fait pas beau, il va faire nuit, reste avec nous. Est-ce que nous faisons ça ? lorsqu'un frère vient, à brûle pour point, une sœur, on parle un peu. Et bon, oui. Allez. On ne fait pas comme ça, hein, parce qu'on n'est pas, on n'est pas des sauvages. Mais ça nous arrive peut-être de pousser vers la sortie gentiment. Peut-être que le Seigneur avait quelque chose à nous dire. Peut-être que dans cette relation, sur un petit moment, il y avait là quelque chose que le Seigneur voulait nous révéler. Nous ouvrir les yeux sur quelque chose. Et c'est raté. La prochaine fois que je viens chez vous, vous me gardez à manger, n'est-ce pas? Quiconque demande, reçoit. Et on ouvre à celui qui frappe. Ça, c'est le cœur de Dieu. Alors, comment savons-nous? Comment savons-nous que nous connaissons spirituellement? Dans Romains, il est dit, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Si vous tournez la phrase, ça veut dire que tous ceux qui cherchent Dieu sont intelligents. N'est-ce pas? Un mardi, je ne sais plus quand, on a essayé de définir un peu l'intelligence et on s'est aperçu que la définition était polysémique et multiforme. C'est-à-dire que on pouvait lui donner beaucoup de définitions selon la matière, ou selon qu'on donne une définition psychologique ou une définition en management ou dans d'autres domaines, en sociologie. La seule intelligence et la seule façon complète de définir l'intelligence se trouve dans la parole de Dieu. Parce que l'intelligence et la connaissance sont synonymes dans la parole de Dieu. Et être intelligent, c'est donc connaître Dieu. Parce qu'évidemment, on bénéficie alors quoi? C'est l'intelligence du Créateur. Et les décisions qui sont prises, les actions qui sont faites, lorsqu'elles sont conduites par le Saint-Esprit, sont le reflet même de la perfection divine. Voilà pourquoi Dieu peut se dire intelligent et bien au-dessus de tous les hommes. Et voilà pourquoi l'homme ne trouve pas une définition claire de l'intelligence. Parce qu'il serait obligé de prendre la définition de la parole. Et évidemment, ça n'est pas possible. Est-ce que vous avez cherché Dieu? Est-ce que la preuve que vous connaissez spirituellement, est-ce que vous avez recherché Dieu? Est-ce que vous avez fait preuve de cette intelligence-là? Est-ce que j'ai fait preuve de cette intelligence-là? Dans Hébreux, il est dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce n'est pas qu'il vous donne beaucoup d'argent, mais c'est qu'il vous remplit d'un trésor inépuisable, qui est celui de l'Esprit de Dieu. Ça a un rapport avec la foi dans Hébreux. Est-ce que vous croyez que lorsque vous cherchez Dieu, il vous remplit, il vous donne ce qui lui appartient. Là aussi, ce sont des choses qu'on entend souvent. Et je répète, Jésus est vivant aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit qui agit. C'est par la foi, dans la prière, que nous recevons. Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Est-ce que nous avons cherché Dieu? Est-ce qu'il nous a rémunérés? Est-ce que nous nous sommes confectionnés un trésor avec ce qu'il nous a donné? Et est-ce que c'est à partir de ce trésor-là que nous parlons, que nous vivons? Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Où sont nos affections? C'est terrible de savoir que c'est dans le dénuement le plus total, lorsque Dieu nous a tout enlevé, que finalement nous nous approchons vraiment de lui. Est-ce que vous croyez que vraiment il faut attendre ces moments-là? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est possible en étant sérieux avec le Seigneur? De recevoir la même bénédiction, sans qu'il ait besoin de nous démunir de tout ce qui est matériel, sans qu'il ait besoin de nous démunir de toutes les choses dans lesquelles nous avons mis notre confiance. Est-ce qu'il n'est pas possible aujourd'hui encore de rechercher Dieu et de recevoir pour cela la rémunération, qui est la réception de la perfection divine en nous? Je crois que c'est possible, frères et sœurs, et je vous engage à prendre ce chemin aujourd'hui. Je vous engage à laisser tout ce qui vous bloque, tout ce qui est de trop, et que vous savez qui est de trop. Dieu m'a-t-il rémunéré? Depuis quelques jours, José dit une phrase, un verset de la Bible, « Celui que le Fils affranchit est réellement libre. » Faites attention parce que on écoute ce qui se dit, n'est-ce pas? Quand José parle comme ça, c'est que le Seigneur lui a parlé. C'est que le Seigneur lui a montré quelque chose et que ça lui fait quelque chose. Et ça me donne une indication sur ce qui se passe un peu dans son cœur. On ne va pas aller trop loin dans ces choses-là, mais c'est normal quand on se parle. Ça donne des indications sur ce qui se passe à l'intérieur de notre cœur. Le son de la voix, le ton, la nature des mots, les questions qui sont posées. N'ayez pas peur, vous pouvez parler librement. Mais ça vaut pour vous, ça vaut pour moi. On se connaît comme cela. Celui que le Fils affranchit est réellement libre. C'est une autre preuve de la connaissance spirituelle. Est-ce que le Fils nous a affranchis? Ce n'est pas est-ce que j'ai une connaissance de l'affranchissement? Est-ce que je l'ai? Oui, je l'ai lu. Je l'ai lu. Je l'ai lu, mais est-ce que le Fils t'a affranchi? C'est-à-dire, est-ce qu'il t'a libéré? Je viens souvent à cette histoire, vous l'avez entendu plusieurs fois, de John Cartledge, qui était ce footballeur anglais qui jouait en tant que professionnel et qui, à la fin de sa carrière, a terminé clochard. C'est quelqu'un que j'ai connu à l'école biblique en Angleterre. Il a terminé clochard, ivrogne, sur les bancs. Et un jour, on lui a donné une Bible. Et alors qu'il avait essayé toutes les cures qui existaient dans le monde, il est tombé sur ce verset. Et il a compris que son problème, c'était pas l'alcool, c'était le péché. C'était qu'il était pécheur et qu'il avait besoin d'être pardonné. Et lorsqu'il a compris ça, il a arrêté de boire immédiatement. Celui que le Fils libère est réellement libre. Et si nous ne sommes pas réellement libres ce matin, alors nous ne sommes pas affranchis. C'est aussi simple que cela. Et ça signifie qu'il faut revenir au départ. Ça signifie qu'il faut recommencer. Ça signifie que là où nous croyons que nous avions donné notre vie au Seigneur Jésus, eh bien, dans la soumission, la repentance et l'humiliation, il faut revenir à ce qui est fondamental et dire, Seigneur, entre dans ma vie, parce que je ne suis pas libre. Philippe de Kourou, hier soir, nous a parlé de cette liberté que lui-même a découverte. Est-ce que nous vivons dans la liberté? Et la liberté, ce n'est pas dire « Ah, je fais ce que je veux quand je veux ». La liberté en Christ, c'est d'avoir non seulement la capacité de choisir, mais la capacité et l'envie de se soumettre en tant qu'esclave à Jésus-Christ. Vous avez été affranchi pour la liberté, il est dit dans Galates. Et cette liberté, c'est, comme il est dit dans Romains, de se livrer à Christ comme esclave. Ça, c'est notre liberté aujourd'hui. Quelqu'un me disait ce matin, « Ah, je sais que si ma maman se donne au Seigneur, elle sait ce qu'elle va perdre. Elle ne réalise pas qu'elle ne perd rien. Elle va tout gagner. » Je vais vous laisser juste un verset en guise de conclusion, puisque c'est la fin. Romains 6, verset 8. « Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. » Frères et sœurs, si vous n'êtes pas libres ce matin, vous ne pouvez pas vous regarder comme mort au péché. C'est une impossibilité complète. Parce qu'il y a en vous une force, une puissance qui vous incite à faire autrement et qui a le dessus sur vous. Regardez-vous comme mort au péché. Et comme vivant pour Dieu, en Jésus-Christ, notre Seigneur, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Je vais m'arrêter là. Frères et sœurs, affections-nous aux choses d'en haut. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, tu nous connais parfaitement. Seigneur, là où nous mentons aux autres, là où nous nous mentons à nous-mêmes sur notre réelle condition, Seigneur, tu nous connais parfaitement et nous ne pouvons rien te cacher. Nous sommes comme un livre ouvert, Seigneur, devant toi. Seigneur, je prie pour que chacun, Seigneur, tu nous visites. Je prie, Seigneur, afin que tu fasses découvrir la vraie liberté à tous dans cette assemblée. Je prie, Seigneur, afin que tu viennes par la puissance de l'Esprit de Dieu. Seigneur, que là où nous nous sommes arrêtés, tu puisses redonner la vie. Là, Seigneur, où nous sommes figés sur notre passé, tu puisses nous mettre, Seigneur, en situation d'attendre le Saint-Esprit qui vient. Seigneur, notre Dieu, aie pitié. Seigneur, garde-nous. Garde-nous du malin, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, de penser que tu es mort et que tu ne peux rien faire. Seigneur, notre Dieu, tu es vivant et tu es un esprit vivifiant. Seigneur, nous voulons confier nos vies à cet esprit vivifiant et recevoir toute cette vitalité en nous dès ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ et par le sang qu'il a versé pour nous sur la croix, Seigneur, nous nous remettons à toi. Seigneur, que la résurrection puisse faire son effet aujourd'hui. Amen.